Sud Radio, il est 4h. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Eh ben bien le bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment vous êtes-vous habillés aujourd'hui? Moi j'ai eu froid.
Moi j'ai un t-shirt.
Ouais.
Mais j'ai toujours chaud moi, vous le savez Frédéric.
Écoutez, ça ne me regarde pas.
Allez, bienvenue à tous dans les vraies voix de Sud Radio comme chaque soir. Des sujets qui vous concernent sans détour. Alors vous avez la parole, si vous souhaitez commenter l'actualité, vous avez envie de parler vrai, vous appelez Julia au 0826 300 300. Puis évidemment vous pouvez voter à nos questions du jour sur Twitter ou nous rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok ou notre chaîne YouTube qui a dépassé, attention, les 900 000 abonnés. D'ailleurs merci à tous. Et puis nous sommes avec nos vraies voix aussi ce soir, cher Frédéric. Nous sommes avec Philippe Bilger qui est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un Inclassable
et qui a la voix un petit peu prise aussi.
Non,
parlez pas.
Non. C'est vrai qu'on n'entend pas finalement.
Non, mais je me donne un air de Bonnie Tyler.
Oui, mais totalement.
Sans le talent. Sans le talent.
Totalement. Mais vous allez ce côté artiste. C'est-à-dire quand le rouge...
J'ai pas mal au cœur en ce qui me concerne.
D'accord. Mais dès que le rouge s'allume, finalement, votre voix réapparaît.
Ben, j'espère.
Voilà, bah écoutez, on continue avec nos éditorialistes. Donc on est aussi avec Olivier Dartigol qui est chroniqueur politique.
Bonsoir. J'aime aussi quand le rouge s'allume.
Oh, j'allais le faire, oh bah zut.
Maintenant que j'ai préféré anticiper.
Ouais. C'est ça. Il sentait ce qu'elle est arrivée déjà.
Alors bravo Olivier.
Je vous connais.
Et puis Maddy Saïdi, vous êtes conseillère en communication d'influence et auteure de Française, venue d'ailleurs chez Stock. Bonsoir.
Bonsoir.
Et la petite voix aussi, mais ça c'est le problème de courir sous la pluie. Ça.
Eh oui.
Ouais,
entre
voilà.
Mais
grande sportive,
fait...
Mais c'est pas mal la voix rock aussi, on aime bien.
Oh oui, et puis de toute manière, j'ai naturellement, moi, c'est mon côté rocker, mon côté Johnny.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Vous pouvez chanter du Joe Cocker aussi, quoi.
Oui, absolument.
Et alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, notre grand débat à 17h30 en début d'année. Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'un réarmement démographique de la France lors d'un entretien accordé au magazine Elle, qui est sorti aujourd'hui. Le président de la République a exprimé son intention d'améliorer l'accès à la procréation médicalement assistée. La position du chef de l'État reste inchangée concernant la gestation pour autrui, à laquelle il n'est pas favorable, car selon lui, elle inclut une marchandisation du corps de la femme. Ce qui nous amène à la question qu'on vous pose.
Oui, pour notre grand débat de 17h30, hashtag réarmement démographique, on en parle. Comme le suggère Emmanuel Macron, la gestation pour autrui, GPA, doit-elle rester interdite en France? Parlons vrai, il faut donc faire des enfants, mais comment? Alors que des problèmes d'infertilité touche nos jeunes générations. Donc procréation médicalement assistée, évidemment. Gestation pour autrui, pas de l'avis de tout le monde. C'est une question d'éthique et ce sont des questions que nous vous posons donc à 17h30.
Et puis nous aurons aussi le coup de projecteur à 18h30. La flamme olympique, vous le savez, est accueillie dans la rade de Marseille aujourd'hui après un périple de 11 jours en Grèce. Elle entame un relais de 69 jours à travers la métropole et les Outre-mer, à travers 400 villes avant d'arriver à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. C'est le 26 juillet qui arrive. Alors selon nos confrères du Figaro, le centre du renseignement olympique basé au ministère de l'Intérieur, 72 scénarios sont susceptibles de mettre en danger ce parcours, sans oublier le mécontentement de beaucoup de Français autour de l'organisation de l'événement lui-même. Alors justement, on le sait aussi, il y a plusieurs centaines de manifestants contre les JO en ce moment à Marseille, et on vous pose aussi cette question.
Mais oui, parce que ça y est, c'est le relais de la flamme. Précisément, elle arrive sur le sol à 19h40. On aura l'œil là-dessus. Relais de la flamme, la France organise les JO 2024. Est-ce une fierté pour vous, les auditeurs de Sud Radio? Vous donnez donc votre avis. C'est vrai, parlons vrai, nos champions se préparent, la Marseillaise va retentir, les stades vont rugir. Dans quelques minutes, la flamme entamera son périple jusqu'au 26 juillet prochain. Elle éclairera les plus beaux sites de notre pays. Êtes-vous fiers que la France organise? Pardon, j'ai pas fini. Excusez-moi. 0826 300 300.
Ben voilà, c'est, au moins on sent le plaisir de Frédéric Brindel à nous raconter tout cela. Allez, on va aussi accueillir notre auditeur du jour, Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, vous nous appelez d'ici les Moulineaux, Guillaume. Alors, votre coup de gueule d'aujourd'hui?
Alors, on vous retrouve dans un instant.
Allez-y, on vous écoute.
Donc, mon coup de gueule aujourd'hui, j'en ai marre qu'on tape sur les demandeurs d'emploi en disant, en essayant de faire passer, si vous voulez, dans l'esprit, dans la mémoire collective, que ce sont des planqués, des profiteurs du système, etc. On a eu le fameux « j'emmerde les non-vaccinés ». Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a droit aux « j'emmerde les demandeurs d'emploi ».
Voilà qui est bien présenté. On revient vers vous dans un instant. Vous êtes ici, si j'ose dire. Ah, ici, les Moulineaux.
Aussi.
Ah, oui, voilà, elle n'avait pas vu. Bon. Et sur le répondeur, donc aussi au 0826 300 300, vous pouvez laisser des messages. J'en avais laissé de temps en temps, Judith, ou
tous
pas?
Tous les jours.
Ouais, parce que j'ai reconnu votre voix l'autre fois. Écoutez, Bernard d'Orthez. Oh, Orthez.
Dans les Pyrénées-Atlantiques.
Patrice basketball. Allez, voilà. Écoutons-le.
Oui, bonjour, c'est Radio. Je suis Bernard d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Je viens d'écouter le reportage là, de l'islamo-gauchisme. Voilà. À quand le prochain reportage de l'extrême droite, là, les identitaires, les néo-nazis, des trusts des multinationales, Le Pen, l'extrême droite européenne, qui, eux, menacent la démocratie blanche occidentale. Et alors, à quand un reportage comme ça? Alors, il y en a marre de l'islamo-gauchisme, hein, qui veut casser les couilles avec ça. Hein. Alors, comme dit le Pecnon, là, bravo, Sud Radio, on avance, et moi, j'avance pas, mais avec tout ça, en tapant sur Mélenchon, les islamo-gauchistes, mais tout le monde, Bardella, lui, il avance. Et vous aurez participé à son élection. Mais vous allez pleurer, hein. Et il va être élu, il va faire comme Orban et tous les pages d'Europe de l'Est, là. Allez, au revoir sur la radio, bonne journée.
On parle vrai,
ça, et qu'on ne dise pas, justement, que c'est qu'un côté qu'on fait parler.
Ah oui, on fait parler tous les côtés sur cette
antenne. Le principe, c'est pas on parle pour un côté, c'est-à-dire on parle vrai.
Voilà, parlons vrai sur Sud Radio. Avec Bernard d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez envie de réagir, les vraies voix? Philippe Bidja.
Ce que j'ai compris, c'est la détestation de l'islamo-gauchisme. Je ne me suis pas trompé.
Il y avait un peu de ça, oui.
Il y avait un peu de ça.
Non, ouais. Il regrette qu'on fustige l'islamo-gauchisme, mais qu'on en oublie l'extrême droite.
Ouais. Ah bon, c'est alors, ça. Il est en plus équilibré.
Voilà, c'est pour ça.
Il est très bien.
Il est très bien.
Voilà. Olivier d'Artigol.
J'ai pas compris ça, mais pourtant, j'habite pas très loin d'Orthez. Ah ouais, non, mais merci pour la traduction.
Oui. Non. En fait, Bernard nous dit, écoutez, nous dit Bernard. Je vais pas le faire avec l'accent. Parce
non.
Mais il nous dit, j'allais le faire quand même avec l'accent.
Je sais que ça vous démange.
Non, mais ne le tentez pas.
Non, il dit, c'est vrai que souvent, on dénonce l'islamo-gauchisme. Alors, il dit pas que c'est pas bien de. Mais il dit, mais n'oubliez pas non plus de dénoncer le danger de l'extrême droite, il prend l'exemple d'Orban en Europe, tout ça, et ils disent faites attention quand Bardella arrivera.
Oui, donc je rejoins Philippe Bilger, c'est un propos équilibré. Mais vous savez, Orthez, c'est une terre qui a beaucoup fait pour mettre fin aux guerres de religion. C'est un territoire tempéré.
Pas mal, belle
réponse.
C'est
la cité de Phébus.
Madi Seydi.
Ben en fait, je l'avais pas compris comme ça, moi. J'avais vraiment pas compris comme ça.
Il est tellement fâché qu'il doit un peu manger le téléphone.
J'avais cru qu'il approuvait
autant de révélations que de présents.
Absolument. Alors, moi, j'avais compris qu'effectivement, il fustigeait le gauchisme et tout ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il était même ravi. Et d'ailleurs, Bardella, vous l'aurez.
Il disait,
si on n'en parle pas assez, on va l'avoir.
Faites attention.
D'accord.
Et il nous disait même, vous en serez responsable. Puisque visiblement il y avait eu une critique de l'islamo-gauchisme, c'était peut-être Elisabeth Lévy ou quelqu'un, enfin qui.
On peut pas le rappeler.
Pourquoi Elisabeth Lévy?
Il faudrait le rappeler, le citoyen d'Orthez.
Allez, on fonce au 0826 300 300.
Oui, avec Guillaume, vous êtes toujours là, Guillaume?
Oui, absolument.
Allez, alors on vous relance sur votre coup de gueule, Guillaume, on vous écoute.
Oui, donc mon coup de gueule, j'en ai marre qu'on tape sur les demandeurs d'emploi en essayant de faire passer dans l'esprit commun que ce sont des profiteurs du système. On a eu le fameux « j'emmerde les non-vaccinés ». Bon, à cela dit, moi je suis vacciné 3 doses. Avec des effets indésirables assez notables d'ailleurs.
Eh ben moi, aucun. Vous voyez comme quoi.
Voilà. Comme quoi c'est l'exception qui infirme la règle.
Voilà.
Et maintenant j'ai l'impression qu'on a droit aux j'emmerde les demandeurs d'emploi. Alors c'est dit de façon beaucoup plus soft évidemment, mais on en est à la 3e ou 4e réforme de l'assurance chômage. Et il suffit pas simplement de traverser la rue quand on a plus de 50 ans pour trouver un emploi, même si on a un bac plus 5 et qu'on parle 3 langues.
Philippe Bilger.
J'aime beaucoup ce point de vue qui est contraire à celui que je développe en général. Mais je crois qu'il y a des situations dramatiques et on peut avoir le sentiment qu'on, pardon pour la grossièreté, qu'on veut emmerder les chômeurs parce qu'on les pense délibérément inactifs.
Oui, on verra dans les prochains mois les arbitrages qui sont rendus par l'exécutif qui a repris la main puisqu'il y a eu un échec des négociations entre patronat et représentants des salariés sous la convention qu'on leur demandait de trouver. Pour les plus de 55 ans, ça devient difficile parce qu'on sait que le taux d'activité est assez... Il y a une difficulté sur l'emploi des plus de 55 ans.
Justement, pardon Olivier, mais j'allais demander l'âge de Guillaume. Guillaume, je peux vous demander votre âge ?
Oui, moi j'ai 52 ans. Aussi en
du coup, vous êtes concerné par cette situation, justement ?
Ah bah complètement. Et puis là, si vous voulez, c'est pas simplement qu'on essaie... Moi, j'ai fait plus de 700 candidatures depuis le mois de janvier en espérant prendre des postes parfois beaucoup moins bien payé que ceux que j'avais, et on me répond, bah écoutez, non, on va pas vous prendre parce que on n'est pas sûr que vous restiez, vous étiez trop bien payé ou suffisamment bien payé autrefois.
Ou l'horrible, vous êtes trop qualifié, on vous a coupé par
On l'a dit plein de fois. J'ai même eu aussi de la discrimination sur l'âge. Je citerai pas l'entreprise, mais ça s'est déjà produit. Une entreprise très connue du secteur du bâtiment. J'ai eu droit aussi à la réforme Macron. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on a moitié moins si on a eu la malchance pendant la Covid d'être au chômage, ce qui a été mon cas. Moi, je touche moitié moins de la CEDIC.
Olivier d'Artigal,
il faut rappeler que un demandeur d'emploi sur deux n'est pas indemnisé. C'est important de le dire. Il faut rappeler que les enquêtes faites par France Travail montrent que l'écrasante majorité des demandeurs d'emploi sont dans une recherche effective d'emploi. Il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est epsilon. Et puis, on a la crainte que la prochaine décision exécutive soit sur un durcissement des conditions d'indemnisation et notamment des plus de 55 ans.
Madi Seydi.
Oui, je suis assez d'accord parce qu'effectivement, il y a, comme dans toutes les sociétés, certaines personnes qui se complaisent à pas chercher du travail, mais généralement, les gens cherchent, ils essaient de trouver du boulot et ils le trouvent pas forcément. Et je trouve qu'effectivement, on a tendance à toujours taper sur les mêmes en disant « la réalité du travail, c'est pas en traversant qu'on trouve du boulot et qu'on soit diplômé, qu'on ait de l'expérience. » Et d'ailleurs, il y a même des gens qui sont prêts à gagner moins, comme ça a été dit là, à prendre des boulots en dessous de leur qualification, mais malheureusement, ils se retrouvent confrontés à des employeurs qui leur disent « en gros, non ». Alors qu'en réalité, si j'ai envie de gagner moins, si j'ai envie, parce que je veux m'en sortir, prendre un poste en dessous, c'est mon droit.
Merci, Guillaume. Alors, Guillaume est notre fil rouge.
Vous restez avec nous, Guillaume. Et puis vous, auditeurs c'est de Sud Radio, si vous avez envie de nous appeler, c'est le 0826-300-300. Vous pouvez aussi, évidemment, aller voter sur notre compte Twitter à nos deux questions du jour. On revient dans un instant avec les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur Philippe Bilger. À tout de suite.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio.
On m'a demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps, c'est même à ça qu'on mesure, tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. À personne. Cette foutue ligne d'arrivée, on m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter, que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. dedans. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne. Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
On est bien sur Sud Radio avec vous. Dans un instant, c'est les trois mots de l'actu de Félix Mathieu, mais tout de suite, le réquisitoire du procureur.
Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger.
On veut procéder.
Philippe, Philippe,
j'avais un petit mouvement.
Avec même un petit compliment que j'avais prévu pour vous.
Bon, oui, parce que c'est un sujet. Laissez tomber le compliment.
Non, c'est un sujet grave que, évidemment, vous allez savoir porter. Intégrer la notion de consentement dans le viol, une idée nécessaire?
Oui, alors, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre et qui consistera. De la part de l'accusé de viol à démontrer lui-même pourquoi il a considéré que sa victime était consentante. Donc il devra donner un certain nombre de signes, d'indices qui, selon lui, montraient de manière non équivoque pourquoi elle était consentante. Alors, là où je m'étonne un petit peu, c'est que mon expérience de la cour d'assises, lorsque nous avions des présidents de qualité, et ça arrivait tout de même, lorsqu'un accusé contestait le viol qui lui était reproché, il disait la victime était la plaignante était consentante. Et le président, naturellement, lui demandait mais quels étaient les signes qui vous laissaient penser? Et donc, on revenait en quelque sorte à ce que le texte nouveau va prévoir. Alors, il aurait peut-être fallu tout simplement inviter les présidents de cour d'assises à être très attentifs au questionnement de l'accusé lorsqu'il disait elle était consentante et demandait mais les signes. Alors là, on va surcharger en intégrant le consentement, alors qu'au fond, la pratique des cours d'assises permettait de régler le problème.
Mmh. Olivier Dartigol.
Donc, une nouvelle loi.
Oui, qui me paraissait
qui
pas essentielle.
Donc, au regard de votre expertise, qui n'amène pas quelque chose qui ne pourrait d'ores et déjà se passer en cours d'assises.
Olivier, tout à fait.
Donc, c'est une loi inutile.
Mais ça plaît beaucoup aux féministes. Ouais, hein.
Au-delà de ça, alors ça c'est sur la forme, mais sur le fond, Madi Saïdi, ça pose des questions parce que cette histoire de consentement, on n'imagine même pas comment on peut arriver à trancher, quoi.
Déjà, évidemment, le fait que on est en France, hein, on adore légiférer, donc il faut toujours légiférer. Et a priori, la question pouvait se régler sans passer par cela. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi une demande qui est dans... C'est terrible de le dire comme ça, mais dans l'air du temps, parce que les féministes sont mobilisées depuis quelque temps sur le sujet. Et pourtant, on se plaint tout le temps de, c'est compliqué déjà pour les tribunaux, mais je crois que quelque part, il fallait donner gain de cause à ces féministes, mais je suis pas sûre que ça rapporte réellement quelque chose dans la gestion,
Philippe Bilger, le but, c'est de renforcer la parole aussi des femmes, hein, c'est ça?
Oui, c'est de faire que ce ne soit pas la plaignante, avant qu'elle soit déclarée victime, qui soit obligée de dire pourquoi elle n'était pas consentante. Mmh. On veut insister sur le fait que l'accusé lui-même devra donner les preuves du consentement. Oui, alors, mais comme le disait Olivier, on pouvait déjà le faire.
Mais cette explication-là, me fait revenir un peu sur mes propos, ou si c'est un plus permettant que l'expression vienne de l'agresseur et non pas de la victime qui aurait à quasiment expliquer ce que l'autre ne veut pas dire, c'est peut-être une évolution positive, alors, pris par ce prisme, avec cet angle-là.
Oui, mais je dirais que la pratique actuelle permettait, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
ouais, vraiment un casse-tête. Mais sujet évidemment important.
Il y a peut-être une symbolique forte en tout cas.
Allez, on y va alors.
Les trois mots dans l'actu, c'est parti. Ah.
Les vraies voix Sud Radio.
Vos trois mots du jour, Félix Mathieu, flamme, liste et gueule.
La flamme olympique est arrivée à Marseille à bord du Belém. Elle sera débarquée sur le sol français dans la soirée. La rumeur qui donne des sueurs froides aux organisateurs du Festival de Cannes, celle d'une liste de 10 stars du grand écran qui seraient accusées d'agression sexuelle. Et puis la gueule de bois, et oui, du côté du PSG, après une nouvelle élimination en Ligue des Champions, Paris s'incline de nouveau face à Dortmund en match retour.
Les vraies voix Sud Radio.
Une parade en mer grandiose dans la rade de Marseille à bord d'un fameux trois-mâts, le Belém. La flamme est arrivée au soleil sous la protection de la bonne mère. Elle va toucher le sol français dans la soirée devant 150 000 personnes et en musique. L'hymne des JO de Paris 2024, signé Victor Lemann. L'hymne qui sera dévoilé en intégralité dans la soirée. On n'a que des extraits pour le moment. Place.
Là, c'est que le violon.
Place maintenant. Et oui, il y a un peu d'électro derrière.
Il a réussi à attraper quelque chose.
Place maintenant aux relayeurs qui vont porter le flambeau tour à tour avec notamment Dorothée Lombard, relayeuse malvoyante de la flamme olympique.
On a juste à porter la flamme sur 200, 250 mètres avec un pas assez rapide. Comme je fais de la marche rapide dans une association qui s'appelle la SLA, eh bien, j'ai pensé que je pouvais y aller, qu'il n'y avait pas trop de risques. Après, j'appréhende un petit peu quand même, mais je pense que ça va bien se passer, puis on va être bien entouré. Donc, il y a surtout une très grande fierté à porter cette flamme. C'est un très grand honneur qui nous est fait.
Dorothée Lombard, relayeuse de la flamme olympique et fondatrice de l'association La Luciole qui œuvre à l'audiodescription de longs métrages pour les malvoyants. Elle sera donc l'une des relayeuses de cette flamme olympique et elle était ce matin avec Laurie Leclerc dans le Grand Matin Sud Radio.
Évidemment, 18h40, le coup de projecteur sur la flamme olympique sur Sud Radio dans les vraies voix. Deuxième mot, liste avec cette rumeur qui fait trembler le festival de Cannes.
Une liste bien mystérieuse, hein, ça ferait presque un bon scénario de thriller.
Ah.
Et oui, la rumeur enfle et c'est beaucoup moins drôle. Depuis quelques jours, à l'approche de la 77e édition du festival, une liste d'une dizaine de stars du 7e art circulerait au conditionnel, des personnalités du cinéma qui seraient accusées d'agressions sexuelles, cette fois des jeunes trentenaires, des quadragénaires, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Certains évoquent une enquête de Mediapart sur les réseaux sociaux, une enquête de Mediapart qui pourrait, du conditionnel toujours, secouer le milieu du grand écran. Alors, rumeur ou pas, en tout cas, l'affaire préoccupe l'organisation du festival qui démarre la semaine prochaine. Festival déjà sous la menace d'une grève pour dénoncer la précarité grandissante dans le milieu du cinéma.
Oui, et face à la délicate question de la dénonciation présumée sans jugement de ces grands noms du cinéma et à la source incertaine de cette liste, hein, on peut se demander comment le festival de Cannes prévoit d'aborder la situation pour garantir à la fois la justice et l'intégrité de l'événement, Philippe Bilger.
Je suis rassuré sur la qualité de ce sujet puisque je l'ai traité hier. Et comme Félix, avec son talent, confirme la validité de celui-ci, ça va être un vrai problème parce que on va sans doute citer des noms et ils vont être stigmatisés, mais peut-être y aura-t-il une discussion sur le point de savoir si ces gens qui sont mis en cause, peut-être même avant que la justice soit emparée de leur affaire, est-ce que ça signifie qu'on n'aura pas le droit de voir leur œuvre au Festival de Cannes ou ailleurs? Ça va être un arbitrage considérable.
Olivier Martigol.
Oui, je confirme qu'on entend de plus en plus parler de cette liste, que bien évidemment ça donne un avant-goût de la prochaine édition du Festival de Cannes où on pourrait malheureusement moins parler des œuvres que de cette actualité. Moi, je suis, après tout ce qu'on a vécu, vraiment très, très favorable à la voie judiciaire, la seule qui peut, au final, apporter une réponse, en souhaitant que si les noms sont donnés, Que cela ne prenne pas une vilaine tournure. Voilà.
Les noms sont donnés, hein, ils sont sortis sur Internet.
Ah, ça y est,
ça y est. Ah oui. Oui, il y a des noms. Ouais.
Oula.
On va pas les, on est pas, on est obligé de les citer.
Récemment,
oui, c'est sorti là. C'est en ligne aujourd'hui, depuis hier, je crois.
Bon. Moi, je suis contre ce genre de pratique parce que malheureusement, on peut accuser tout le monde et n'importe qui. Et puis, quelque part, moi, j'en ai marre de ce tribunal médiatique et notamment celui des réseaux sociaux où n'importe qui peut arriver. Et je dis pas que la liste est fausse, j'en sais absolument rien. Mais cette pratique, moi, elle me gêne dès lors où en 5 minutes, on peut mettre l'opprobre sur quelqu'un et qui, malheureusement, quand il est blanchi, quand c'est le cas, parfois c'est pas le cas, ben personne n'entend parler, évidemment, du fait que cette personne ait été blanchie. Donc il faut faire attention.
Allez, aussi. Le troisième mot est sans transition, même s'il y a une histoire de liste, hein, la liste de Deschamps, par exemple, mais ça n'a rien à voir.
Ah ouais, la liste de Rose, ça c'est
le troisième mot, c'est gueule de bois au PSG.
Les Parisiens, de nouveau éliminés de la Ligue des Champions, ils se sont de nouveau inclinés 1-0 en match retour face à Dortmund. Petite mine pour Kylian Mbappé, forcément coup de sifflet final.
C'est triste, on est des gars qui ont essayé de tout donner, on a beaucoup bossé, on a tout consacré, on a tout consacré pour essayer de faire la différence. Maintenant, on n'a pas réussi, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces. Et dans les matchs couperets de Ligue des Champions, quand tu n'es pas efficace dans les deux surfaces, c'est difficile d'espérer d'aller au tour d'après, qui plus est quand le tour d'après c'est une finale. Donc, voilà, c'est comme ça. Comme j'ai dit, il reste la finale de la Coupe de France.
Et puis, il reste aussi Atalanta-Marseille demain soir à 21h en Ligue Europa. Demi-finale retour après, pour ce qui est des Marseillais, un nul, un partout à l'aller. Décidément, ils s'en passent en ce moment des choses à Marseille.
Allez, l'OM.
Merci Félix. Lors d'un entretien accordé au magazine Elle ce mercredi 8 mai, le président revient sur le réarmement démographique et affirme son opposition à la GPA. Alors évidemment, on est en droit de nous demander d'ailleurs si tout ça n'est pas une grosse intrusion au cœur de nos intimités, Frédéric.
En tout cas, nous vous posons la question, comme le suggère Emmanuel Macron, la gestation pour autrui GPA doit-elle rester interdite en France? Nous aurons deux spécialistes, Sylvie et Dominique Ménesson, fondateurs de l'association Clara, comité de soutien pour la légalisation de la GPA. Ils nous donneront leur point de vue dans un instant avec les vraies voix.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
Sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer, emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. J'suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. J'suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Votre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité.
Aujourd'hui, tomber enceinte, ça devient un exploit.
Exactement.
C'est une location d'utérus, c'est de la marchandisation du corps humain. Et ça doit rester absolument interdit en France comme ça l'est aujourd'hui.
Utiliser une femme à des fins de production, c'est quand même incroyable.
On nous parle de réarmement démographique.
Alors que lui-même, il n'a pas de gosse. Ça me fait marrer.
C'est une violence faite au corps des femmes au moment de la grossesse.
L'utilisation de la femme, la chosification de l'enfant, ça ne peut pas être éthique.
Lors d'un entretien accordé au magazine Elle qui est sorti aujourd'hui, le président de la République a exprimé son intention d'améliorer l'accès à la PMA, la procréation médicalement assistée. La position du chef de l'État reste inchangée concernant la gestation pour autrui, la GPA. Je le cite, quant à la GPA, je le redis, je n'y suis pas favorable. Elle n'est pas compatible avec la dignité des femmes, c'est une forme de marchandisation de leur corps. Ce qui nous amène aussi évidemment à la question qu'on vous pose sur X. Comme le suggère Emmanuel Macron, est-ce que la GPA doit rester interdite en France, ce à quoi pour l'instant vous répondez oui à 93%. N'hésitez pas
tranché.
À continuer à voter et puis vous pouvez aussi nous appeler pour réagir 0826 300 300.
Allez, parlons vrai. Pensez-vous déjà comme le président de la République qu'un réarmement démographique s'impose? C'est vrai, la planète ne surchauffe-t-elle pas à cause de l'activité humaine trop dense? Il faut donc faire des enfants, d'accord. Mais comment quand les problèmes d'infertilité touchent nos jeunes générations? La procréation médicale assistée, évidemment, pour le président. La gestation pour autrui, pas forcément, car il est question d'éthique. D'accord ou pas, donnez-nous votre opinion. Eux ont une opinion bien précise dessus. Sylvie et Dominique Mesneson, qui sont fondateurs de l'association Clara, comité de soutien pour la légalisation de la GPA. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
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 Alors, vous connaissez le principe, enfin peut-être pas, mais je vous le redis, chaque vraie voix vous donne un petit point de vue très court, les vraies voix en jouent le jeu, et puis après ils auront plein de questions à vous poser, et on vous donne votre temps de parole. Philippe Bilger.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'entretien du président dans le magazine Elle, et il n'y a pas que son observation sur le devoir d'être père qui suscite véritablement peut-être une controverse. Notamment, il va ouvrir à des centres privés ce qui relève de la PMA, et en ce qui concerne la GPA, en n'étant pas évidemment péremptoire sur ce sujet, même si j'ai connu dans mon environnement des GPA qui apparemment n'ont pas abouti à des effets négatifs sur aucun plan, je reste dans cette banalité de dénonciation contre la marchandisation du corps, contre le plus souvent l'exploitation de destinées relativement précaires. Et troisième élément, il me semble que pour des mères qui ont porté l'enfant et qui le vendent, il y a quelque chose de probablement très déchirant pour certaines à l'idée de devoir se séparer du fruit de leur vie.
Olivier d'Artigol, Emmanuel Macron, il parle de réarmement démographique, mais il n'a pas d'enfant non plus, hein, d'ailleurs.
Oui, mais là, le président a raison d'évoquer cette question qui revient de temps en temps dans notre actualité, mais sans qu'elle ne s'installe durablement. Or, l'avenir démographique est une question sérieuse. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile. Sur une trajectoire qui n'est pas bonne, un pays qui a une telle difficulté dans sa vitalité démographique est un pays qui ne va pas bien. Alors après, le président évoque la question de la PMA, je ne reviens pas sur ce que vient de dire Philippe Bilger en faisant une proposition donc qui me paraît aller peut-être très certainement dans la bonne direction. Il continue à verrouiller sur la GPA, il a raison de le faire, je ne crois pas à une GPA éthique, on en a déjà parlé ici, mais j'aurais aimé qu'il puisse évoquer les freins, les obstacles qui rentrent en ligne de compte quand un jeune couple reporte sa décision de procréer, d'aller vers une naissance. Et il y a de multiples facteurs. Mm-hmm. J'en ai évoqué un tout récemment concernant la situation économique des jeunes couples. Le fait qu'avant d'accéder à une sûreté professionnelle, le sas de précarité via des CDI ou des missions dure longtemps. Il y a quelques années encore, cela a été pour ma génération, on avait une entrée dans ce qu'on appelle le marché du travail beaucoup plus sécurisée, qui nous permettait, j'ai envie de dire, de faire des projets dont celui d'avoir des enfants. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est une dimension, mais il y en a bien d'autres.
On va y revenir, hein, on a le temps. Hein.
Maddy Seydi.
Oui, sur la question du réarmement démographique, moi, je suis toujours gênée quand on emploie comme ça de grands termes. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose aussi d'intime dans ça. C'est aussi la liberté des gens, même si effectivement, un État fort est aussi un État qui a un certain taux de natalité, mais pour ça on peut aussi impulser une vraie politique de natalité. Mais effectivement, on devrait aussi se poser la question de pourquoi aujourd'hui les Français, en dehors des gens qui sont atteints de stérilité, pourquoi aujourd'hui les Français ne font plus d'enfants. Maintenant sur la GPA, maintenant sur la GPA, en revanche, moi je suis contre pour des raisons d'éthique, parce que pour moi le corps d'une femme est sacré et je suis contre la marchandisation. Et d'ailleurs on le voit bien, une femme qui est pauvre ne peut pas se permettre de faire une GPA. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler d'une personne en situation de richesse qui faisait une GPA pour aider un pauvre.
Alors, justement,
Sylvie et Dominique Ménesson, je rappelle que
Attendez, on va vous donner la parole. Ne parlons pas tous en même temps. Allez-y, Julie.
Sylvie et Dominique Ménesson, je rappelle que vous êtes fondateur de l'association Clara. Vous êtes le comité aussi de soutien pour la légalisation de la GPA. Quand on entend parler aussi de ce check-up fertilité, il y a une forme d'intrusion quand même caractérisée. Qu'est-ce que vous en pensez, même vous qui soutenez la GPA?
Je te laisse parler, parce que vraiment, je ne comprends pas trop cette question.
Une intrusion dans nos intimités, quoi, je veux dire, en fait. Hein, tout d'un coup, réarmement démographique.
Tout à fait. Ah oui, d'accord.
Mais juste avant, on est en train de parler tous les deux, et Sylvie a dit quelque chose de très juste qui répond à votre question. C'est qu'en fait, les couples infertiles ne sont absolument pas concernés et on n'a pas à résoudre le problème de la démographie. C'est deux choses qui sont complètement différentes et qui relèvent de situations personnelles et de l'intimité. Je partage avec vous, c'est quand même assez intrusif de vouloir réarmer la natalité.
Bon. Rappelons, vous êtes parent de deux jumelles, donc, hein, nées en 2000 aux USA, à San Diego, et vous avez donc fait toute la jurisprudence française et européenne de la GPA depuis votre retour en France en 2000 et au travers de 16 procès. Expliquez-nous où vous en êtes.
Justement, nos enfants ont été enfin reconnus en France à 19 ans, quand elles ont eu leurs 19 ans. Ce qui est quand même pas très normal d'attendre autant de temps, surtout quand la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il faut agir avec célérité et efficacité pour reconnaître les enfants. Donc en fait, notre association, elle défend d'abord les enfants. Avant de demander la légalisation, déjà si on avait un débat, on serait déjà content. Un vrai débat, un débat serein. Et je dois dire que les arguments que j'ai entendus, on les entend depuis 40 ans, c'est toujours les mêmes arguments qui n'ont pas changé, alors que depuis, le monde a changé. Il y a des centaines d'études sur le sujet qui prouvent que ce n'est pas du tout le cas. Il y a 30 000 enfants qui sont nés dans le monde par GPA, et on a du recul maintenant. Alors au début, évidemment, il y a 40 ans, on nous disait on n'a pas de recul. Bon, mais c'est bon, maintenant on l'a. Et les Français, eux, ils sont favorables à 75%, donc on n'a pas les mêmes chiffres que vous. Et notamment les femmes qui sont majoritaires pour dire qu'elles seraient d'accord pour porter un enfant pour un couple. Et ce sont des femmes qui ne sont pas des pauvres, d'ailleurs. Ce sont des femmes qui n'ont pas besoin d'argent, ce sont des femmes éduquées. Et elle le ferait même à titre altruiste et gratuit. Et c'est ça qu'on demande, une GPA altruiste et gratuit. Et oui, solidaire, ça existe, figurez-vous. Je sais bien que c'est inconcevable pour certains, et on ne force personne, bien sûr, on ne forcera jamais personne, justement, puisque la femme en question doit avoir donné son consentement libre et éclairé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une notion médicale qui est bien connue. Et en fait, nous, ce qu'on demande, c'est ça, parce que c'est parce qu'il y a une absence de cadre légal qu'il y a des dérives. Des dérives dont vous avez parlé, d'ailleurs. Hein. Vous dites vendu, et vous avez raison. Vous avez raison, nous, on est les premiers. On est les premiers à s'opposer à ça. Et elles sont minoritaires, heureusement. Mais la réalité, c'est au contraire des centaines d'enfants qui naissent en France. Alors, pas suffisamment pour combler le problème démographique, bien sûr, mais plusieurs centaines d'enfants qui naissent tous les ans en France, à l'étranger, pardon, et qui vivent en France, pardon, et qui n'ont pas de statut. Ils ne sont pas reconnus. Donc, bon, c'est
réagi autour de la table. Hein,
Philippe Bilger, justement, on ouvre le dialogue. On parle de légalisation, ok, mais quid de la reconnaissance, justement, de ces enfants
alors,
qui existent déjà oui.
Moi, d'abord, merci pour vos observations, et j'y suis sensible. Hein, mais est-ce que, malgré les précautions que vous prenez, et je dirais le cadre que vous souhaitez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut heurter tout de même, même en utilisant le terme marchandisation d'une manière plus noble, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut heurter tout de même la conscience ?
En fait, moi, je pense que c'est un écran de fumée, la marchandisation, c'est-à-dire qu'elle sert surtout à justifier la difficulté qu'il y a à comprendre qu'une femme peut être libre et vouloir aider un couple à devenir parent en portant pour eux un enfant, et que cette conception-là, elle est difficile à accepter par certains. Ben, ils représentent que 25%. Peut-être que c'est un peu difficile de comprendre qu'une femme ne va pas s'attacher comme une mère à l'enfant qu'elle porte, mais c'est quand même la réalité qui existe depuis 30 ans. Il y a une tonne d'études sur le sujet. Donc après, c'est assez facile de vouloir dire que ces femmes sont en précarité ou imaginer que se séparer de l'enfant est difficile. Mais dans la réalité, ça n'existe pas seulement, cette description. J'ai entendu dire à une femme, elle allait souffrir de la séparation avec l'enfant. Mais il y a des tas d'études sur le sujet. Il y a des tas de témoignages de femmes qui ont porté l'enfant d'autrui et qui expliquent cela. Et pour certaines d'elles, ce sont des femmes riches qui ont aidé des pauvres. Il y a aussi ces cas.
Alors, ça réagit, Sylvie et Dominique. Hein, on revient vers vous au 0826 300 300. Notamment Guillaume à Issy-les-Moulineaux. Guillaume, on vous retrouve. Votre point de vue sur cette GPA. Donc, le débat a été remis au goût du jour par le président de la République. Votre opinion.
Bah, écoutez, je pense que c'est très habile de sa part, parce que une fois de plus, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le contre-feu qu'on allume pour diviser un peu plus les opinions françaises, le peuple, et pendant qu'on lui sert à manger un sujet croustillant comme la GPA, eh bien, on ne parle pas des vrais sujets.
Bon, donc, mais sur le fond, parce que vous pensez que c'est pas
vous
un vrai sujet, la GPA,
Guillaume?
Alors, c'est un vrai sujet, mais c'est un contre-feu allumé par le
d'accord.
chef du
gouvernement.
D'accord, mais sur le fond,
vous,
sur le fond.
Voilà.
Ouais.
Alors, sur le fond, moi, j'y suis opposé, parce que je pense que la marchandisation du corps de la femme ne doit pas s'opérer. Il y a 5%, il y a une étude d'Europol qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, qui montre que 5% des 821 organisations criminelles répertoriées en Europe utilisent effectivement ce moyen pour gagner beaucoup d'argent. Alors certes, effectivement, certaines personnes diront que les femmes sont d'accord pour ne pas vendre leur corps et ne pas gagner d'argent avec ça, mais je pense que ça sera l'objet effectivement de beaucoup de trafic et qu'il ne faut surtout pas aller dans ce sens. Voilà.
Olivier d'Artigal.
Oui, j'essaie d'écouter avec attention les arguments qui peuvent m'être opposés par rapport à mon sentiment premier, donc faire preuve d'altérité, aller chercher dans ce qu'on nous dit ce qui peut me faire bouger. Mais décidément, quand vous me parlez de ces femmes qui n'ont aucune difficulté et qui donc font le don d'une GPA pour une femme qui ne pourrait pas procréer, peut-être, mais c'est pas l'écrasante majorité de ce que j'ai pu. En effet, vous avez raison, c'est très documenté, il y a en effet des travaux, des recherches. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Et tout ce que vous m'avez dit n'arrive pas à oublier ces femmes qui, dans une misère effroyable, parfois pris dans des filières, dans des réseaux de mafia, sont obligées, pour survivre, d'aller vers cet acte-là. Et je trouve que dans ce que vous nous dites, malheureusement, vous en parlez peu.
Madis et Eddy, on peut se poser la question de comment concilier les préoccupations éthiques, hein, dont on parle depuis tout à l'heure au sujet de la GPA, avec le désir de certains couples d'avoir des enfants, tout simplement, parce qu'il y en a qui ne peuvent vraiment pas. Donc, quand même, c'est quand même une solution qu'on leur propose.
Alors, est-ce que c'est une solution? Il y a plein d'autres solutions. Il y a, par exemple, l'adoption. Et là, on nous parle de consentement.
Ça n'existe pas, c'est irréel de parler d'adoption. Vous connaissez les chiffres de l'adoption?
Allez-y.
Alors, prenez les chiffres de l'adoption, ça existait peut-être il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais aujourd'hui, on parle seulement de quelques centaines d'enfants à adopter pour une demande qui est 50 à 100 fois plus élevée. Donc, la probabilité d'y arriver,
faire bouger
au final, elle est inexistante, tout simplement. On a dans notre association.
Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, en fait, Dominique Ménesson, c'est vrai, comme le dit Olivier Dartigolle, c'est peut-être là-dessus qu'il faut bosser, c'est faciliter l'accès à l'adoption.
Ah bon? Mais non, vous inventez des enfants alors?
Oui,
il faut parler de choses réelles, ne sont pas des procédures qui empêchent d'adopter, c'est qu'il n'y a pas d'enfants adoptables. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les lois qui protégeaient les enfants dans les pays pauvres sont efficaces.
Voilà. Et puis la GPA et l'adoption, c'est quand même des choses différentes, puisque il y a quand même une descendance génétique du père au moins, enfin, si, ou du père ou de la mère.
J'aimerais quand même avoir une réponse sur moi. Est-ce que vous parlez très quid de ces femmes dans une misère absolue et qui donc tombent dans l'organisation de filières?
C'est peut-être justement le fait de définir un cadre.
C'est pour ça qu'on propose un cadre légal à la française, altruiste, gratuit.
Mais altruiste, ça n'existe pas en France.
Mais si ça existe, vous voyez, vous voulez peut-être pas.
Sujet très intéressant.
Sujet merci. À approfondir.
En tout cas, et c'est vrai que franchement, hormis les convictions profondes, si on essaye de sortir tout ça, c'est pas un sujet loin s'en faut aussi évident que cela. Moi, c'est mon
point. On vous remercie, Sylvie et Dominique Ménesson. On rappelle que vous êtes fondateur de l'association Clara et le comité de soutien pour la légalisation de la GPA. Vous restez avec nous, chers auditeurs. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, sur Sud Radio. Et alors, en plus, on va bien s'amuser dans un instant parce que c'est qui c'est qui l'a dit. J'ai réussi à le dire, moi, aujourd'hui. Voilà, à tout de suite.
Sud Radio, Le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
Ai-je tort de te voir dans tous les regards? Ton image revient encore et encore. Je le sais, on a changé de décor.
Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Les vraies voix de Sud Radio. Si vous saviez ce qu'on dit en antenne,
oui, oui,
on ne le répétera pas.
Incroyable. Hein,
voilà. Ouais. Alors, vos vraies voix
culotté,
ce soir,
oui. C'est
le cas de le dire. Chers auditeurs, sont Philippe Bilger, Olivier Dartigolle et Madis Saïdi. Ils sont prêts, hein, comme vous. On est prêts, Frédéric Brindel.
Vous parlez de pour le Belém.
Oh, vous êtes parfait, Philippe Bilger.
Eh bien voilà,
je vous bénis.
17h52, voilà, Philippe Bilger.
C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Eh bien, alors, pour jouer avec nous, vraiment, Philippe, bravo. Guillaume, donc notre fil rouge. Bon, Guillaume, vous êtes là?
Oui, oui,
bon,
absolument.
Je rappelle le principe. Vous êtes le premier à répondre. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Nous vous écoutons. Oui. Essayez de répondre assez rapidement. Si vous n'avez pas de réponse, à ce moment-là, les trois autres vraies voix entrent en jeu. Il y a plusieurs différences de points. Eh bien, nous commençons, chère Judith, par une question...
Mais on y croit, on y croit.
À deux points.
Allez, c'est parti. C'est un grand honneur. Qui c'est qui l'a dit, hein. Pardon, je leur dis bien cette fois-ci. C'est un grand honneur, une responsabilité et un devoir sacré.
Guillaume. Attal.
Florent Manoudou.
Non,
c'est pas lui.
Manoudou.
Alors les autres, non. C'est pas français.
C'est pas français.
C'est un devoir sacré.
C'est un grand honneur, une responsabilité, un devoir sacré. Qui a dit ça? Allez, je vous aide.
C'est Joe Biden.
Non,
c'est son ennemi.
Trump.
Non.
Poutine.
Oui, Poutine, superbe.
Il l'a dit.
J'en écris sur Judith,
oui,
avec mon stylo.
Qui a gagné?
Guillaume. C'est Guillaume qui prend deux points. Deuxième question qui ne vaut qu'un seul point. Qui c'est qui l'a dit?
La cérémonie d'accueil de la flamme. Bah, je sais pas, vous prenez votre temps, alors j'avais pas compris. Allez-y, c'est à votre tour.
Moi, j'aime bien les dire.
Allez-y,
la cérémonie d'accueil de la flamme olympique en France est le premier temps fort de Paris 2024. Alors, Guillaume.
Hidalgo.
Estanguet.
Estanguet, oui. Bravo. Très bonne réponse d'Olivier Dartigolle.
Il a été rapide.
C'est normal.
Un point. Troisième question.
Cette fois-ci, j'ai le droit.
Oui, trois points.
Vas-y.
Qui c'est qui l'a dit? On a des gars qui ont essayé de tout donner. On a beaucoup bossé. On a tout consacré pour essayer de faire la différence, mais on n'a pas réussi.
Marquinhos.
Alors, Guillaume, vous ne l'avez pas?
Darmanin.
Pardon,
Mbappé,
j'ai dit.
Oui, bien sûr.
C'est lui qui a juste après la défaite du Paris Saint-Germain hier soir.
C'est qui?
Mbappé.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, pas après.
Moi, je l'avais dit avant.
Moi, j'avais dit avant.
Articulé, Olivier Dartigolle.
Je crois que je l'avais dit
avant. Mbappé l'a dit avant, pardon, me dit Benoît.
Et puis, surtout, ça prouve que vous écoutez ce que dit Félix Mathieu, parce qu'en plus, il vous l'a fait écouter tout à l'heure, l'extrait.
Oui, vous êtes bien concentré, bravo.
Autre qui c'est qui l'a dit, c'est parti pour 3 points. Qui c'est qui l'a dit au sujet de la Chine? L'Union européenne n'hésitera pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité, Guillaume. Qui a dit ça?
Notre ministre des Affaires étrangères, éventuellement?
Non.
Von der Leyen.
Oui, Olivier Dartigolle. Il est terrible, Olivier Dartigolle.
Ouais, mais il est bon.
Oui, oui.
Il est
bon. Avec elle, oui.
Surtout qu'on ne le combat pas.
On continue, Judith, c'est vrai.
Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas de jour férié quand on est en campagne.
Alors,
Guillaume d'abord.
Bardella.
Qui l'a dit en premier? Vous avez entendu?
Olivier Dartigolle, je pense. Oui.
C'est moi le premier. Là.
Benoît.
Ah. Alors, Benoît Boutorbe, qui est notre réalisateur, est censé trancher.
C'était un
gagné.
Bon, alors écoutez, je vais attribuer le point à Philippe Bilger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime le suspense et que tout est possible et que tout va se jouer pour vous quatre sur cette dernière question. Écoutez bien, c'est parti. Qui c'est qui l'a dit? J'ai envie de prendre un maximum d'énergie de tous les Français et étrangers qui sont à Marseille pour l'arrivée de la flamme. Je ne me prépare pas. Qui a dit ça, Guillaume?
Macron.
Non.
Mais il se prépare, Macron.
J'ai envie de prendre un maximum d'énergie de tous les Français et étrangers qui sont à Marseille pour l'arrivée de la flamme.
Le président du comité olympique, là.
Ce n'est pas Tony Estanguet. Allons-y, les autres.
Le maire.
Non.
Il va porter la flamme.
Manoudou.
Manoudou. Victoire d'Olivier Tartigolle.
Voilà. Bah, on est d'accord.
Hein, qui est habillé en bleu d'ailleurs, c'est peut-être de bonne augure.
Fifty Shades of Blue. Allez, vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, vous votez sur Twitter à nos sujets chauds d'actu. On reste avec vous, on vous remercie Guillaume, vous restez avec
bravo,
nous aussi.
Guillaume,
bravo, bravo à tous et à tout de suite.
Sud Radio Aurillac
101
Sud Radio.
Sud Radio.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir, si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, je pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme mon état c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.